Dieu soit béni pour sa présence au milieu de nous. Nous nous réjouissons de pouvoir nous retrouver ensemble. On va faire une lecture dans Éphésiens 5. Dimanche dernier, donc, on a commencé une série sur l'Église et nous avons vu, je rappelle brièvement, très brièvement, ce que nous avons vu dimanche dernier. Nous avons vu que l'Église, c'est le projet de Dieu, qu'il a formé dans son cœur avant la fondation du monde. C'est lui qui bâtit son Église, je bâtirai son Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Quoi qu'il arrive, le Seigneur est celui qui garde son Église dans ses mains. Et il nous associe à ce bel ouvrage, les uns et les autres, que Dieu soit béni. Ce matin, on va faire une lecture dans Éphésiens chapitre 5, et nous allons lire à partir du verset 22. Cette épître aux Éphésiens est importante par rapport à l'Église, car c'est le thème, j'allais dire, central de cette épître. Éphésiens chapitre 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. Passage qui nous apprend certaines choses par rapport à l'Église. Et l'apôtre Paul va donner ici quelques relations qui sont dans le couple. Il parle, par exemple, que les femmes soient soumises à leur mari. Alors les maris, en général, ils aiment bien se verser. Hein. Mais je crois que l'exigence pour les maris est encore plus grande. Elle est plus grande, n'est-ce pas ? Parce que les maris leur ont demandé d'aimer leur épouse comme Christ a aimé l'Église. Comme Christ a aimé l'Église. Je veux dire que c'est encore plus fort que d'aimer comme soi-même. C'est comme Christ a aimé l'Église. La barre est très haute pour les hommes. Et comment Christ a aimé l'Église ? Alors ce matin, notre sujet par rapport à l'Église, c'est vraiment, on va s'arrêter, on va se focaliser ce matin sur le fait que Jésus aime l'Église. L'amour de Jésus pour l'Église. Et nous voyons la sincérité, la profondeur de cet amour à la croix. Car là, l'amour ne consiste pas seulement en des paroles. C'est une chose de dire « je t'aime », mais il faut que cet amour soit en action et en vérité, comme nous dit l'apôtre Jean. Or, la mesure de la profondeur et de la sincérité de l'amour de Christ pour l'Église se voit à la croix, comme nous l'avons chanté. Dans son amour pour l'Église, il a été jusqu'à mourir sur la croix. Il nous est dit qu'il s'est livré lui-même pour elle. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Il a renoncé à tout par amour pour l'Église, et il s'est livré pour elle afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Quel amour extraordinaire! Quel amour extraordinaire il a pour chacun d'entre nous qui sommes cette Église. Et je rappelle ce que nous avons vu la semaine dernière, que sa maison, c'est nous. Son Église, c'est nous. Son Église, ce ne sont pas des bâtiments, mais son Église, c'est nous. Et il nous aime d'un amour profond, d'un amour sincère, d'un amour vrai. Quoi qu'il arrive, rien ne pourra nous séparer de son amour. Tout à l'heure, on lira un texte à ce sujet. Jésus aime son Église et nous voulons aussi, nous, en tant que membres de ce corps, aimer l'Église. Aimer l'Église. Nous pouvons devenir si exigeants envers l'Église que si nous voyons une petite ride, une petite tache, nous venions à la mépriser, voire à la quitter. Or, Jésus lui-même aime son Église malgré ses défauts. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas que ses défauts disparaissent, bien au contraire, car il s'est livré lui-même pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Néanmoins, tant que nous serons sur cette terre, bien sûr que nous aurons à progresser, mais en tout cas, Jésus aime son Église. Jésus aime son Église. Je discutais récemment avec quelqu'un qui avait la fâcheuse tendance à dire que dès qu'il y avait un défaut dans l'Église, c'était une Église de l'Antéchrist. Et à bannir les Églises. Ce à quoi je lui ai répondu, bien sûr que Jésus aime l'Église, mais je faisais part de certaines choses que nous voyons dans le Nouveau Testament, notamment dans les épîtres de Paul aux Églises, Corinthe, Romains, Galates, etc., Éphésiens. Il y avait des problèmes dans ces Églises, mais à aucun moment l'apôtre Paul ne dit, même par rapport aux Corinthiens, que c'était une église de l'Antéchrist. Bien sûr, il va leur écrire afin de régler certains problèmes graves qu'il y avait dans cette église. Jésus a aimé l'Église. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, nous dit Jésus. Dans le livre de l'Apocalypse, j'en faisais allusion dimanche dernier, mais il y a 7 églises qui sont mentionnées avec 7 lettres, 7 messages qui leur sont adressés. Seulement 2 de ces 7 églises, il n'y a aucun reproche pour Smyrne et Philadelphie. Les autres, il y a des reproches, et pour certaines, de graves reproches. Mais on voit aussi que le Seigneur est au milieu de ces églises. Et il dira au chapitre 3, verset 19, quand il va s'adresser à l'église de Laodicée, il dira « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. » Si le Seigneur adresse un message à ces églises-là, malgré ce qui se passait, c'est parce qu'il les aimait. Et dans son amour pour ces églises, il va faire tout en sorte que ces églises prennent la victoire sur certaines choses qui s'y passaient à l'intérieur d'elles-mêmes. Nous n'allons pas prendre ces 7 églises les unes après les autres, ça serait fort intéressant, mais juste 2 ou 3. Par exemple, l'église d'Éphèse. Quel reproche est fait à cette église d'Éphèse? On voit que c'était une église qui, au niveau de la doctrine, était très bien. Mais le problème, c'est l'amour. Comme quoi on peut avoir une bonne doctrine, une saine doctrine, rester dans une saine doctrine, mais avoir perdu son cœur pour le Seigneur. Et Jésus va lui dire à cette église, Apocalypse chapitre 2, verset 4, si vous prenez des notes, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Et on voit de quelle manière Cette Église est née, on le voit dans les Actes des apôtres. Quelques décennies ont passé, 50, 60 ans à peu près, tu as abandonné ton premier amour. Une église qui est restée dans la sainte doctrine, une église qui a reçu aussi cette épître qu'on connaît dans la Bible, l'épître aux Éphésiens que Paul a écrit avec le thème central de l'église. Cette église qui a reçu ces exhortations-là, au fur et à mesure, son amour s'est refroidi. Tu as abandonné ton premier amour. Néanmoins, est-ce que ça change quelque chose à l'amour du Seigneur pour cette Église? Non. Le Seigneur va faire en sorte que cette Église puisse retrouver son premier amour. Pour reprendre l'image que l'apôtre Paul donne par rapport au couple, c'est toujours difficile lorsque un des deux conjoints n'aime plus l'autre. Quand le mari n'aime plus sa femme ou l'inverse, c'est lourd dans le couple. Surtout si l'autre l'aime toujours autant, mais il ne se sent plus aimé de son conjoint. C'est difficile à vivre. Et c'est ce qui se passe si nous reprenons cette image lorsque une église a perdu son premier amour. Jésus l'aime toujours, mais l'église a abandonné son premier amour. Que va faire Jésus? Malheureusement, nous le voyons parfois quand ça se passe dans un couple comme cela, ça peut malheureusement finir en divorce. À moins que il se passe quelque chose dans le cœur. Et qu'est-ce que va faire le Seigneur à ce moment-là lorsque une église a abandonné son premier amour? Le Seigneur va continuer à aimer cette église et il va reconquérir son cœur. Il va chercher à reconquérir son cœur. Il va chercher à rallumer la flamme de l'amour. C'est ce que veut faire le Seigneur. Nous le voyons dans le livre du prophète Osée au chapitre 2. « Je l'attirerai au désert et là je parlerai à son cœur. » Le Seigneur va faire en sorte de produire des événements pour essayer de regagner le cœur de son Église parce qu'il aime son Église. Et il veut que tout à nouveau il y ait cette harmonie, cette union d'amour entre lui et son Église. Passons maintenant à l'Église de Smyrne. Je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas de reproche pour cette église de Smyrne. Une bonne église, on va dire. Il y a une invitation quand même à ne pas craindre ce qu'elle va souffrir. Chapitre 2, verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Il y a des difficultés dans la vie. L'Église connaît des difficultés. Et jusqu'au retour du Seigneur, l'Église sera éprouvée. Mais comme nous le disions dimanche dernier, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. De par le monde, encore aujourd'hui, plus que jamais, l'Église est persécutée. L'Église est en souffrance. Mais l'Église est triomphante. Parce que Jésus aime cette Église et qu'il la protège. Et que rien de ce qui peut arriver sur cette terre, rien de toutes les épreuves, rien de toutes les souffrances, de toutes les persécutions, ne pourra séparer l'Église de l'amour de Jésus-Christ. Reprenons l'exemple encore dans un couple. Lorsque, par exemple, l'épouse est malade, est-ce que ça va changer quelque chose à l'amour du mari ? Si son épouse est malade, si son épouse est éprouvée dans sa santé ou dans un autre domaine, ça ne va pas éteindre l'amour du mari pour son épouse. Il va l'aimer même si elle est malade. Il va même manifester cet amour par différents actes. Il va prendre soin de son épouse, il va lui apporter ses médicaments, il va border son lit, il va porter le petit déjeuner au lit. Il va être au petit soin. Amen. Verset 29, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Jésus aime l'Église, et malgré tout ce qui peut arriver à l'Église, Jésus aime l'Église. On pourrait parler, et on va en parler, de l'Église de Philadelphie. Pour elle aussi, cette Église, il n'y a pas de défaut. J'aurais pu citer toutes les églises où il y avait des défauts que le Seigneur veut rectifier. Mais il y a quelque chose d'intéressant pour l'église de Philadelphie, et nous le voyons au chapitre 3, verset 9. Au chapitre 3, verset 9. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Et connaître que je t'ai aimé. L'Église a des ennemis. Mais ce ne sont pas les ennemis qui vont triompher. C'est l'Église qui va triompher. Et ils vont connaître que je t'ai aimé. Le monde ne fait aucun cas de l'Église, bien que ce soit clair. D'une manière générale, le monde n'aime pas l'Église. Le monde n'aime pas l'Église. Mais ils vont connaître que Jésus nous a aimés. Et toute bouche sera fermée. Toute bouche sera fermée. Nous retrouvons la même pensée dans Jean chapitre 17. Nous savons que cette prière, c'est la prière que Jésus a faite avant d'aller sur la croix, une prière intense, profonde. Et au verset 23, il dira « Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé » et que tu les as aimés, comme tu m'as aimé. Le monde va connaître, et le monde déjà connaît, que Jésus aime l'Église. Et nous pouvons avoir des ennemis sur cette terre, et peut-être dans notre propre famille, peut-être sur notre lieu de travail. C'est parfois difficile, éprouvant, de se retrouver sur un lieu de travail où on passe 8 heures, voire plus par jour. Et avant de partir le matin, peut-être même il y a la boule au ventre parce qu'on sait qu'il y a tel et tel collègue qui n'arrête pas de nous harceler, de nous faire du mal, de nous lancer des piques. Mais un jour ou l'autre, Dieu fera en sorte qu'ils connaissent qu'ils vous ont aimé, que le Seigneur vous a aimé. Et même ses ennemis peuvent un jour devenir vos frères et sœurs en Christ. Alléluia. Alléluia. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nos ennemis ne sont pas terrestres, même si le diable et ses démons nous suscitent des ennemis terrestres, mais c'est contre les esprits méchants que nous avons à lutter dans les lieux célestes. Alléluia. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ. Et nous voyons cet amour, comme je le disais tout à l'heure, dans les autres épîtres, Colossiens, Éphésiens, Philippiens, Corinthiens, Romains, Galates, Thessaloniciens. Nous voyons cet amour, et pourtant ces églises n'étaient pas parfaites. On voit même l'amour de l'apôtre Paul pour ces églises, qui ira jusqu'à dire, « Dussé-je, en vous aimant plus, être moins aimé de vous ?» Donc l'apôtre Paul était prêt à aller jusque-là dans son amour pour les églises, et s'il s'est donné autant, c'est parce qu'il était animé de l'Esprit de Christ qui était en lui, et l'Esprit de Jésus nous amène toujours à aimer l'Église. Toujours. Toujours. Ça ne peut pas être le contraire. Si on n'aime pas l'Église, c'est qu'on n'est pas animé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous amener à aimer l'Église. À aimer l'Église. Quelles sont les conséquences de l'amour L'amour, ce n'est pas abstrait. L'amour, c'est concret, c'est quelque chose de concret. En Romains chapitre 8, je l'ai cité plusieurs fois, Romains chapitre 8, mais ça vaut la peine de le lire. Romains chapitre 8, verset 35. Verset 35. Tout ce chapitre 8 est remarquable, mais on va lire à partir du verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui? La question est posée. Personne. Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Ça rejoint ce que nous disions tout à l'heure. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Le Seigneur est celui qui nous garde. Selon qu'il est écrit, verset 36, on en est, « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Quel amour! Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Il nous a aimés alors que nous ne l'aimions pas encore. Il nous a aimés alors que nous étions encore ses ennemis. Il a prouvé son amour pour nous. En ce que nous étions encore ses ennemis, il est mort sur la croix pour chacun d'entre nous. Et cet amour va amener une réciprocité. C'est les choses concrètes de l'amour. Si nous l'aimons, c'est parce qu'il nous a aimés le premier, comme cela est écrit. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 19. Si nous l'aimons, c'est parce qu'il nous a aimés le premier. Se savoir aimer d'un tel amour gagne au cœur. Gagne au cœur. Et nous l'aimons en retour. Comme cette femme pécheresse qui, dans les évangiles, va se trouver aux pieds de Jésus et qui va verser du parfum. Elle va mouiller de ses larmes les pieds du Seigneur et va les essuyer avec ses cheveux. Alors là, il y a Simon le pharisien qui est offusqué de la scène. Il commence à mépriser Jésus. Si cet homme était prophète, il serait qui et de quelle espèce est cette femme? Alors là, Jésus va lui donner une bonne leçon à cet homme, à ce pharisien, qui se croyait meilleur, mais son cœur était hermétique à l'amour, fermé à l'amour. Et il va dire à Simon le pharisien, il va prendre exemple de cette femme, celui à qui on pardonne peu aime peu. Cette femme s'est sentie aimée de Jésus et en retour, elle l'a aimée. Lui, il se croyait juste pharisien. Je n'ai pas besoin de me repentir, etc. Hermétique à l'amour, hermétique au pardon. Mais l'amour va amener une réciprocité. Alléluia. Nous voulons encore mieux grandir dans l'amour du Seigneur, dans sa grâce. L'amour amène encore la sécurité et la confiance. La sécurité et la confiance. Une femme, lorsqu'elle se sent aimée, se sent en sécurité et confiante. Elle sait que son mari ne va pas batifoler à droite ou à gauche. Elle est en sécurité. Elle sait que son mari va prendre soin d'elle. Qu'il sera fidèle. Que quoi qu'il arrive, il va l'aimer pour le meilleur comme pour le pire. L'amour amène une sécurité et une confiance. Il en est de même pour cette union qui unit l'Église à Christ. L'Église, se sachant aimée, est en sécurité. Elle est confiante car elle sait que quoi qu'il arrive, le Seigneur continuera à l'aimer et à prendre soin d'elle et à la garder jusqu'à son retour. Quoi qu'il arrive, l'Église est en sécurité en Christ seulement. C'est seulement en Christ que nous trouvons notre sécurité. C'est seulement en lui que nous sommes dans le calme et dans la confiance. Qu'est-ce que produit encore l'amour? La joie. La joie. Alléluia. C'est vrai que quand dans une famille, il n'y a pas l'amour, c'est tendu, comment on peut... peut pas y avoir de la joie. On peut pas être joyeux dans une telle condition. Quand les conjoints se s'aiment pas et qu'ils se font des reproches constamment, etc., il n'y a pas la joie. Mais bien au contraire, il y a la joie lorsque dans une famille, dans un foyer, cette joie va même se voir sur les enfants lorsqu'il y a cet amour qui est développé, manifesté. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, il n'y a pas des petites fausses notes. Ça peut arriver, hein. Mais la différence, c'est qu'on règle ces fausses notes dans le pardon et la repentance. Parce que l'amour véritable nous conduit à ça aussi. La joie. L'amour produit beaucoup de joie. Et l'amour produit de la joie, cet amour que le Seigneur déverse sur nous, déverse dans nos cœurs par le Saint-Esprit, produit beaucoup de joie. Et nous le voyons aussi par le fait que nous nous retrouvons dans la joie, dans le plaisir d'être ensemble. On aime à être ensemble, on aime à être dans la présence du Seigneur. Alléluia. Et on recherche cette présence du Seigneur. On recherche cette communion fraternelle. Ce sera aussi un autre sujet par rapport à l'Église. La joie, le plaisir d'être ensemble. Je ne sais pas vous, mais quand il arrive parfois que mon épouse va s'absenter, à peine a-t-elle franchi la porte qu'elle me manque déjà. Parce que quand on aime quelqu'un, son absence provoque quelque chose. On aime la personne, et voilà, quand on ne la voit plus, ça nous manque. Et si ça doit durer quelques jours, encore plus. On est allé en tourner en rond, mais quand c'est qu'elle va revenir? On sait quand elle va revenir, bien sûr, mais la présence de quelqu'un qu'on aime est importante, et quand elle est absente, ça nous manque. Ça nous manque. Le plaisir d'être ensemble avec le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est toujours avec nous. Soyons toujours avec lui, hein. C'est aussi la réciprocité. Non seulement avec lui, mais en lui. Lui, il est en nous, mais que nous puissions être en lui. Que Dieu soit béni. Alléluia. Lorsqu'on se sent aimé, le Seigneur nous aime, on va servir dans la joie et dans l'amour, et non pas dans la contrainte. Non pas dans les reproches. Mais parce qu'on aime la personne, on le fait avec joie, on le fait avec amour, on le fait avec plaisir. Tout cela, c'est ce que produit l'amour du Seigneur dans nos cœurs. J'aimerais encore lire un autre passage dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 16. Première épître de Jean, chapitre 4. Verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Amen. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. C'est ce qu'avait abandonné l'Église d'Éphèse. Malgré toute sa connaissance, elle était capable de réfuter les faux docteurs, mais elle avait abandonné son premier amour. Demeurons dans l'amour de Dieu. Demeurons dans l'amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Nous l'avons connu, cet amour. Je veux dire que ce n'est pas simplement le fait d'avoir appris dans des leçons, dans des cours, que Jésus est monté sur la croix. Beaucoup de gens le savent, ça, mais est-ce qu'ils l'ont connu? Est-ce qu'ils l'ont connu? Beaucoup de gens savent que Jésus-Christ est monté sur la croix, mais ça ne change rien à leur vie. Mais lorsque nous l'avons connu dans notre cœur, lorsque nous avons eu cette connaissance-là, c'est une révélation dans le cœur que nous avons. Lorsque nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, nous y avons cru. Amen. Croyons dans cet amour. Croyons dans cet amour. La foi dans l'amour du Seigneur va changer notre vie. La foi dans l'amour du Seigneur va amener cette confiance. La foi dans l'amour du Seigneur va amener cette assurance que quoi qu'il arrive, le Seigneur nous garde. Que nous pouvons nous approcher du trône de la grâce pour être secourus dans tous nos besoins parce que nous savons que le Seigneur prend soin de l'Église. Nous savons aussi que le Seigneur, dans son amour, est prêt à pardonner nos fautes, à pardonner nos péchés, nos égarements, à pardonner même notre amour qui s'attiédit, qui se refroidit, voire qui s'éteint. Et là, l'Église, devant son Seigneur, va lui demander pardon. Elle croit, parce qu'elle croit en cet amour, elle sait, elle croit aussi au pardon de son divin époux. Alléluia. Elle sait, c'est une conviction dans son cœur que le Seigneur est prêt à pardonner. Il est prêt à pardonner. Et nous y avons cru. Amen. En tout temps, ayons cette foi dans cet amour. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Que l'Église s'approche de son époux. Alléluia. Que l'Église vient toucher son mari. Qu'elle vient toucher son mari, c'est à lui qu'elle aime. Alléluia. Même si elle passe par des moments difficiles, je prendrai l'exemple de cette femme dans les évangiles. Cette femme, je vais l'assimiler quelques instants à l'Église. C'est la femme qu'on appelle communément la femme atteinte d'une perte de sang. Cela fait 12 ans qu'elle est malade. 12 ans, pas rien quand même. Une maladie qui la fatigue. Non seulement une maladie qui la fatigue, mais une maladie qui la met sur la touche parce qu'elle est considérée comme impure. Son corps est considéré comme impur, mais pas son âme. À cause de cette maladie, elle ne peut pas faire ce qu'elle doit faire et elle se sent tout le temps fatiguée. Elle se sent tout le temps fatiguée. Parfois, l'Église peut ressembler à cela, ça peut durer des années, il y a une lourdeur, une fatigue qui est là. C'est pesant. Elle ne peut pas vaquer à ses occupations comme elle devrait. Elle ne peut pas faire accomplir la mission que le Seigneur lui donne d'accomplir parce qu'il y a un problème. Parce qu'il y a un problème. Alors cette femme dans les évangiles, 12 ans, elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Tout ce qu'elle avait. Elle a été trouvée le médecin tel, le docteur un tel, le chirurgien, enfin tous les médecins qu'il y avait à l'époque, qui certainement, chacun avec tout leur savoir, ont fait du mieux qu'ils ont pu, mais n'avaient aucun remède pour elle. Aucun remède. Jusqu'au jour où elle a entendu parler de Jésus. Alléluia. Et là, elle s'est dit en elle-même, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Quelle foi extraordinaire. Sa foi a gagné ses pensées. Et elle s'est mise en action. Elle s'est mise en action et elle est venue par derrière, de peur d'être vue, parce qu'elle est atteinte de cette maladie. Et là, la guérison s'est installée en elle. Alléluia. Pourquoi ? Parce qu'elle est venue toucher le bord du vêtement du Seigneur Jésus. Frères et sœurs, l'Église peut en tout temps venir toucher son divin époux. En tout temps. Nous pourrions prendre d'autres exemples de femmes dans les évangiles pour l'assimiler à l'Église, pour faire une relation avec l'Église. En tout temps, l'Église peut venir toucher son époux. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le Seigneur va lui refuser une grâce? Est-ce que le Seigneur va lui refuser une grâce? S'il y a quelque chose à rectifier, il le fera. On peut prendre encore l'exemple de cette femme dans les évangiles qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Déjà, on peut se poser la question, où est le mari? Enfin, le mari. L'homme avec qui elle a commis adultère, si c'est un flagrant délit. Ils étaient forcément deux. Hein. Mais ils ont apporté à Jésus seulement cette femme. Seulement cette femme. Et c'est vrai que peut-être on pourrait taxer certaines églises d'adultère spirituel et leur lancer la pierre, les lapider. Qu'est-ce qu'a fait Jésus à ce moment-là? Alors que tout le monde est parti, tous les accusateurs sont partis parce qu'ils avaient tous à se reprocher quelque chose. Hein. Il va dire à cette femme, va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Il y a quand même une recommandation. Hein. Jésus va pardonner, mais il va lui dire, ne pêche plus. C'est-à-dire qu'elle va devoir régler ce qu'elle a à régler. Elle va devoir rompre la relation illicite qu'elle a avec un homme. Va et ne pêche plus. C'est la recommandation que le Seigneur va adresser à cette femme. Et en venant trouver le Seigneur, il faut s'attendre à ce que le Seigneur nous dise certaines choses. Non seulement il va apporter la guérison, mais aussi il peut dire certaines choses. Et à l'Église, à ce moment-là, de prendre en considération ce que le Seigneur adresse à son Église, comme cela a été dit dans les épîtres dans l'Apocalypse, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Il faut qu'à ce moment-là, l'Église accepte, reçoive les paroles de son divin époux, sachant que ce qu'il dit, c'est pour son bien. Sachant que ce qu'il dit, c'est pour la faire paraître devant lui, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alléluia. C'est ainsi que nous voulons paraître devant notre Seigneur. Et nous voulons considérer que même si le Seigneur a quelque chose à nous reprocher, il nous aime encore. Il nous aime encore. Alléluia. Ô Seigneur, merci pour ton amour. Son amour est incommensurable, on ne peut mesurer l'amour du Seigneur. Et nous sommes constamment au bénéfice de cet amour, jour après jour. Nous voulons comprendre que le Seigneur a ses yeux aussi sur cette Église qui nous concerne, ici à Sainte-Agne. Quel amour le Seigneur a eu pour cette Église. Alléluia. Oh, merci Seigneur, nous sommes là par l'effet de ta grâce, par l'effet de ton amour. Et quoi qu'il arrive Seigneur, nous savons que tu aimes, tu nous aimes, et que nous sommes dans le creux de tes mains. Nous voulons nous approcher de toi Seigneur, pour avoir la guérison de nos cœurs. Nous voulons nous approcher de toi Seigneur, pour repartir, parce que toi tu vas donner un souffle à ton Église par le Saint-Esprit, parce que tu aimes ton Église. Nous voulons nous approcher de toi, Seigneur, dans la foi, dans la joie, dans la repentance. Nous voulons nous approcher de toi dans la sincérité de nos cœurs, Seigneur Jésus. Et si besoin, si nous sommes atteints d'une maladie quelconque, spirituelle, je m'entends bien, nous voulons venir toucher le bord de ton vêtement, Seigneur. Alléluia. Il la sanctifie par l'eau de sa parole. Oh, que ton nom soit glorifié, Jésus, pour l'amour que tu as envers l'Église. L'Église est toujours là, 2000 ans après, l'Église est toujours là. Elle a connu des époques difficiles, sombres, mais l'Église est toujours là, parce que Jésus l'aime. Alléluia, Jésus l'aime. Le diable s'acharne contre l'Église. Peine perdue, Jésus la tient dans sa main.